Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Eddy Haït, maire écologiste de Carrières sous Poissy, conseiller régional et président du groupe écologiste et progressiste au conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Eddy Haït, première question, qu'est-ce que vous préconisez pour venir en aide aux étudiants qui sont touchés par la crise sanitaire, des étudiants contraints parfois d'aller dans des centres de distribution alimentaire ?
Moi, je suis tout d'abord très inquiet de la situation critique que rencontrent les étudiantes et les étudiantes en France en général et en Île-de-France en particulier. Le contexte de la crise sanitaire les frappe. On avait beaucoup parlé de nos aînés, de nos anciens, et on avait oublié que notre jeunesse était aussi très fragile. Et moi, je suis très attristé de ces longues files d'attente pour aller chercher de l'alimentation. C'est une génération qu'on pensait protéger. Donc aujourd'hui, il y a une urgence à agir vite et fort pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire. Les régions se mobilisent, les communes également. À Carrières sous Poissy, nous mettons en place un certain nombre de dispositions à travers le Conseil communal d'action sociale, le CCAS. Il s'agit pour nous de lutter contre le décrochage, donc nous mettons à disposition tous nos espaces numériques s'ils ont besoin de sortir, de se retrouver dans le respect des gestes barrières autour de postes informatiques. Il y a la précarité économique et sociale, on a dû tous suspendre nos stages dans les accueils en mairie, donc on essaie de pouvoir les reprendre au mois d'avril pour leur redonner des débouchés, parce que nous avons beaucoup d'étudiants qui sont en stage. Et puis il y a la question des troubles psychologiques, là nous travaillons en lien notamment avec la région, les différentes structure de soutien pour qu'ils puissent avoir une écoute, pour qu'ils puissent avoir un accompagnement. Il y a une véritable détresse, il y a un trouble à la santé mentale qui est évident chez nos étudiants. Et concernant la problématique alimentaire plus particulièrement, on a développé récemment des partenariats avec des restaurants de la commune qui vont offrir des repas à nos étudiants sur inscription avec présentation de la carte d'étudiant. Et puis nous mettons à disposition également notre accompagnement auprès des associations caritatives pour, au cas par cas, accompagner nos étudiants. Il faut qu'on en sorte très vite aujourd'hui de cette situation. Sur le plan déjà de leur réussite universitaire qui va être impactée, il faut leur apporter des garanties sur la valeur de leur diplôme, le sens des études qu'ils font, et puis les rassurer sur le fait que la société les protège et que la République est un projet peu. C'est la force que représente cette jeunesse. C'est pour ça que moi je milite assez fortement pour ce revenu de garantie autonomie pour les jeunes.
Alors, le président Macron s'est donné une dizaine de jours pour prendre une décision, pour voir si on resserre ou si on relâche les contraintes sanitaires. Des confinements territoriaux sont envisagés. On a vu ça notamment dans les Alpes-Maritimes. Vous redoutez un troisième confinement ?
Je n'ai pas peur de confinement territorialisé que l'Académie des médecins préconisait d'ailleurs, et les pays en Europe qui l'ont pratiqué s'en sortent mieux que nous le dessus. Puis si ça permet de replacer les collectivités territoriales au cœur de la discussion, c'est plutôt une bonne chose. L'exemple de Nice le prouve. Quant au confinement national, c'est déjà le confinement un principe assez brutal, assez archaïque comme méthode de traitement d'une maladie. Je ne préconise pas aujourd'hui, il faut à tout prix conserver l'hypothèse d'un cap qui se aux Français, la morosité, la dépression, les gens n'en peuvent plus, ils sont à bout, il y a une question de soutenabilité et d'acceptabilité de la mesure. Donc je souhaite vraiment qu'on renforce toutes les mesures de précaution, toutes les mesures de sensibilisation, et surtout qu'on se donne une véritable stratégie vaccinale qui est le seul horizon possible pour les Françaises et les Français aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je suis aussi très favorable, moi, au passeport vaccinal, pour que ceux qui auraient les deux doses puissent reprendre progressivement une vie professionnelle, une vie sociale, une vie économique et une vie culturelle aussi, qui nous fait vraiment actuellement
défaut aujourd'hui. Eddy Haït, depuis une semaine, la gauche et le gouvernement polémiquent autour de la question de l'islamo-gauchisme. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, affirme que c'est une expression qui recouvre une certaine réalité dans les universités. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire l'islamo-gauchisme. Ce que je sais, c'est que beaucoup d'élus de droite, de gauche et du centre ont fait preuve souvent d'une grande lâcheté face à la problématique du fait religieux dans la vie publique. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment rappeler. Maintenant, l'université, aujourd'hui, on l'attaque d'islamo-gauchisme. Dans les années 40, on disait qu'elle était au service de l'idéologie judéo-maçonnique. Alors, l'université reste un espace de débat où les jeunes, ils sont libres et conscients. Je pense que vraiment, avoir polémiqué compliquée autour de ce débat-là, même si la ministre a pu avoir des intentions louables, et je ne les connais pas, les intentions réelles sur cette démarche-là, je pense que là, on attend d'agiter ce chiffon rouge qui n'est pas utile aujourd'hui, alors qu'il faut ressouder la communauté nationale. Donc franchement, pointer du doigt l'université, alors qu'elle est un lieu de débat, un lieu d'enrichissement intellectuel, un lieu de d'échange entre les cultures, c'est vraiment dommage et c'est porter, je dirais, une stigmatisation inutile.
La loi confortant les principes républicains sera examinée le mois prochain au Sénat. Est-ce que c'est une loi utile selon vous, Eddy Haït?
Je pense que la lutte contre le séparatisme, elle était attendue, elle était souhaitée, et moi j'ai regardé ça plutôt avec une attention particulière. Parce qu'il y a quand même un sujet aujourd'hui, il n'y a pas une commune qui n'est pas, qui ne soit pas confrontée à une difficulté liée à l'application du principe de la laïcité. Et cette loi, elle doit être l'occasion, selon moi, de sensibiliser vraiment plus grand nombre maintenant au principe de la laïcité, avec, je pense aux communes, un plan ambitieux de formation des agents publics et des élus locaux, qui manque souvent parfois d'éléments pour avoir une approche saine et objective de cette valeur fondamentale qui est la laïcité. Voilà. Après, il y a plusieurs points essentiels dans cette loi. Il faut quand même le contrôle des associations, il est essentiel. Et d'ailleurs, souvent, tous dans nos communes, nous mettons en place des chartes. À Carrière-sous-Poissy, nous avons mis en place une charte des engagements réciproques basée sur celle qui était proposée par l'association des maires de France. Et puis on doit être vigilant sur le bon usage des fonds publics alloués aux associations. Donc évidemment, le financement des cultes étant interdit, il est majeur d'avoir un outil de contrôle. Et puis, clairement, se pose aussi la question dans cette loi de l'instruction à domicile. Bon, moi j'ai pris acte que le gouvernement voulait vraiment restreindre cette possibilité là pour les familles. Maintenant, il faut encore nous donner les moyens aux mairies de contrôler, d'être associés au traitement des demandes de dérogation. Moi, je me réjouis de la volonté du gouvernement de renforcer ces contrôles. Mais quels moyens humains sont donnés aux mairies, aux offices d'état civil, aux services d'état civil dans nos communes? Donc beaucoup de choses qui ne sont pas encore totalement abouties. Moi, je souhaite qu'on puisse aborder le débat autour de cette loi en le sortant de tous ces contextes préélectoraux qui viennent polluer vraiment des débats de fond. Et moi, j'appelle vraiment tous les élus là-dessus à s'emparer de la question de la laïcité, d'en emparer davantage localement et de comprendre à quel point c'est un élément fédérateur, c'est pas un élément qui exclut, qui stigmatise la moindre des religions. Nous devons lutter autant contre celles et ceux qui, au nom des religions, poursuivent les femmes sur les tables d'avortement, que celles et ceux qui font des prêches anti-républicains dans les mosquées.
Le maire de Lyon a mis en place des menus végétariens dans ses cantines pour simplifier la distribution de repas en période de crise sanitaire. Des membres du gouvernement dénoncent une prise de position idéologique. Vous qui êtes écologiste, est-ce que vous êtes choqué par la mise en place de ces menus végétariens?
Alors, je me permets de rappeler qu'il a juste retiré la viande. Il reste du poisson et des œufs. Donc, on n'est quand même pas totalement dans un menu végétarien. Moi, aujourd'hui, je déplore vraiment cette polémique stérile autour de l'action du maire de Lyon et le gouvernement. Honnêtement, je ne suis pas certain qu'il ait que ça à faire en ce moment. Il faut vraiment qu'on investisse de temps dans l'action publique plutôt que dans cette communication polémique. Parce que, au-delà de cette question du choix, qui est libre d'ailleurs de la maire, du maire de Lyon, nous devons tous œuvrer pour une politique alimentaire de long terme. C'est vrai qu'il y a un débat sur la question de la viande, etc. Mais soit on dit qu'on ouvre ce débat-là, et on l'ouvre honnêtement, et M. Darmanin, voilà, je pense que retirer la viande, c'est une erreur, et on ouvre un débat de fond et politique, mais on ne s'agite pas comme c'est fait aujourd'hui. Tous les maires veulent une alimentation durable et locale, et on veut encourager des repas plus végétaux dans ma commune, 2 repas végétariens par semaine. On travaille sur de l'alimentation de qualité, on veut de la viande de qualité, on veut des produits végétaux de qualité aujourd'hui. Il n'y a pas un qui s'oppose à l'autre. On doit vraiment, vraiment aujourd'hui se soucier de ce qui est donné à manger aux enfants. On a même nommé chez nous une conseillère déléguée à l'alimentation durable, de façon à rappeler que c'est une priorité politique. Nous, on n'est pas favorable à la suppression de la viande d'une façon absolue, d'autant qu'il en faut pour les enfants, contrairement aux adultes, dans leur croissance, même si on en donne trop aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas si clair d'ailleurs au sein de ce gouvernement, puisque la ministre de la Transition écologique, elle, a quand même dénoncé un débat préhistorique qui avait été ouvert par le ministre de l'Intérieur. Donc je pense que ce débat, il mérite mieux que d'être traité ainsi à l'emporte-pièce. Là aussi, dans un contexte préélectoral, c'est pas du tout aujourd'hui. Il y a des vraies réalités climatiques sur la façon dont on produit de la viande aujourd'hui. Et on peut plus clairement politique aujourd'hui sur quelque chose qui avait été mis en place par l'ancien maire LREM, qui aujourd'hui mis en place par le maire Europe Écologie Les Verts, me paraît particulièrement déplacé et maladroit.
Eddy Haït, vous êtes partisan d'une écologie concrète et vertueuse, pour reprendre vos termes. Vous avez parlé de l'alimentation. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans votre ville de Carrières-sous-Poissy pour lutter notamment contre les effets du réchauffement climatique ?
Alors déjà, on s'en occupe, ce qui est nouveau chez nous dans notre commune, ce qui est important. Et puis on a réussi à avoir un discours écologique pendant la campagne des élections municipales sans se faire enfermer justement dans un dogmatisme. Parce qu'on a au quotidien, quartier par quartier, essayé de travailler sur la réduction des déchets, essayé de travailler sur le changement des comportements pour les mobilités, essayer de travailler sur des déplacements différents quand on se rend à l'école avec, avec ses enfants, essayer de travailler sur des défis énergie pour réduire consommation des foyers. On essaye de trouver des solutions du quotidien qui, très honnêtement, sont très largement partagées. Les Françaises et les Français, ils ont vraiment conscience qu'aujourd'hui, il y a un virage à prendre, qu'il est vraiment temps de le faire. Donc on a installé une conférence citoyenne du climat et de l'environnement il y a quelques jours maintenant, un espace de débat où on a demandé à des citoyens, non pas à des experts, de venir nous aider à construire ces politiques publiques. On croit beaucoup aussi à ce que ne doivent plus être nos villes de grande couronne, c'est-à-dire ces territoires servants où on met des activités polluantes. Donc une réhabilitation du discours, de l'image des territoires par l'écologie, et par des politiques publiques particulièrement précises, inscrites dans les quartiers, tout ça au service de la transition écologique, bien évidemment.
Eddy Haït, votre ville s'est constituée partie civile et demande réparation suite à la pollution d'une partie de votre territoire. Durant un siècle, la plaine de Carrières-sous-Poissy a servi à l'épandage des eaux usées de la région parisienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé durant un siècle et quel est le préjudice pour votre ville ?
En fait, pendant près d'un siècle, 300 hectares de terres agricoles ont été irrigués par des bouts d'épandage issus des eaux usées de la ville de Paris. Bon, à l'époque, les bouts d'épandage étaient considérés comme un élément de fertilisation important et ça assurait d'ailleurs une grande partie de la prospérité économique de la ville de Carrières-sous-Poissy, qui alimentait Paris d'ailleurs en fruits et légumes. Et des premiers circuits courts de France ont été d'ailleurs créés à Carrières également, puisque les agriculteurs vendaient sur place aux habitants leur production de poireaux, de fruits et légumes. Bon, mais néanmoins, toutes ces boues, toutes ces eaux usées ont apporté des métaux lourds qui ont considérablement pollué le sol et condamné ce sol à une infertilité réelle, à une interdiction de culture. Donc nous avons eu un espace comme ça, naturel, ouvert, soit qui a connu des occupations sauvages, soit qui a fait l'objet d'une grande décharge sauvage qu'on avait appelée tristement d'ailleurs la mer de déchets, puisque c'était plusieurs milliers de tonnes de déchets qui étaient rassemblés sur le territoire de Carrières-sous-Poissy, issus du BTP. Aujourd'hui, ces déchets sont partis. La plaine aujourd'hui reste, je dirais, orpheline d'un projet d'aménagement concerté. Et puis surtout, nous avons des sols pollués. Et donc le préjudice, il est majeur, car on prive les habitants et la commune de 330 hectares d'espace naturel à pouvoir exploiter. Donc on a décidé de porter plainte contre X en se constituant partie civile pour estimer un préjudice écologique. On a estimé un peu plus de 79 millions d'euros, faisant le calcul sur les différentes taxes qui auraient pu être perçues, les travaux déjà engagés pour décaisser de la terre, etc. Donc clairement, c'est aussi un message fort qui est envoyé pour nous, de dire que les territoires de Grande Couronne en général, les Carrières-sous-Poissy en particulier, ne veulent plus être un territoire servant. Nous voulons être un territoire ressource. Et si cette plaine peut retrouver sa vocation agricole en ayant obtenu réparation écologique, en ayant dépollué les terres, et qu'on peut contribuer à la résilience alimentaire, on interrogeait tout à l'heure sur ce qu'on pouvait faire justement pour la transition écologique, bah c'est une chaîne alimentaire de proximité, bah cette plaine, elle pourrait redevenir une terre agricole permettant d'alimenter et de nourrir les populations, et l'île de France qu'en a bien besoin. Moi, je suis persuadé que la résilience alimentaire est un enjeu fort des années à venir.
Eddy Haït, dans votre ville, vous avez décidé de lutter contre les dépôts sauvages. D'abord, il y a eu une phase de pédagogie. Et puis, ce week-end, vous avez utilisé une mesure un peu plus forte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait ?
En effet, on était un peu agacé avec plusieurs élus et même les agents municipaux qui ramassent régulièrement sur la voie publique plusieurs mètres cubes de déchets issus de l'incivilité d'administrer ou même de l'absence de rigueur de certains bailleurs ou copropriétés. Et bien, très clairement, on s'est dit, ben voilà, ben ce dimanche-là, ça suffit, on envoie un message, police municipale, élus, agents publics, nous sommes allés remettre sur les parcelles des propriétés en question les dépôts sauvages qui avaient été mis sur l'espace public, qui pour moi doit rester un espace commun. Donc pour qu'il soit un espace commun, il faut le protéger, il faut rappeler à ceux qui le souillent qu'ils sont en délit. Et donc clairement des amendes ont été dressées, tout a été remis sur les parcelles, et comme par enchantement, ce qui n'avait jamais été retiré d'ici là par les responsables l'a été dans la journée même de lundi.
Alors vous êtes par ailleurs référent de la commission numérique de l'association des maires d'Île-de-France. Plusieurs communes ont été victimes de cyberattaques. Est-ce que le confinement et le télétravail ont fragilisé les systèmes informatiques des communes ?
Oui, très clairement, les mesures qui ont été prises dans l'urgence pour développer le télétravail dans les collectivités territoriales ont fragilisé les systèmes informatiques et ont révélé pour un certain nombre de communes la faiblesse de leur système de protection et leur système informatique. Ils ont fait l'objet de cyberattaques et de nombreuses communes l'ont été. Alors, aujourd'hui, il faut clairement que les communes considèrent que ce sujet il est majeur. Ils doivent, dans les pratiques et dans les budgets, se donner les moyens de se doter d'un véritable bouclier de lutte contre les cyberattaques. Alors on est aidé par l'agence nationale, hein, là-dessus, qui va même financer des audits de sécurité des systèmes d'information des collectivités, et ça c'est un bon point. Voilà. Il faut aussi rappeler que c'est l'humain qui est au cœur des systèmes de fragilité et de crise dans la cyberattaque, donc il faut former les agents municipaux. Par exemple, à la communauté urbaine Grand Paris Sénéoise, dont je suis conseiller communautaire délégué, on a lancé un faux mail en fait, d'hameçonnage auprès des agents, et malheureusement, beaucoup ont ouvert ce mail alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Donc on voit encore que dans les pratiques, il y a une culture de la cyberprotection à mettre en place. Ça, c'est un élément central. L'humain est vraiment au cœur de la résolution des cyberattaques. Il faut développer une culture de la gestion du risque numérique dans nos collectivités territoriales. Mais là, il y a eu un coup de semonce. Je crois que tout le monde l'a compris, et ça va se mettre en place. Moi, je me félicite que l'État, à travers la Banque des Territoires et l'ANSSI, va nous aider à financer des audits de sécurité.
Dernière question, Eddy Haït, aux élections régionales en Île-de-France, vous soutenez la candidature d'Audrey Pulvar. Vous êtes président du groupe écologiste et progressiste. D'abord, quel est le bilan de la présidente sortante Valérie Pécresse et pourquoi ce soutien à Audrey Pulvar et non à Julien Bayou, qui est le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts?
Alors, merci de me donner l'occasion de préciser quelques éléments sur le bilan de la présidente sortante. Je ne veux pas être très objectif puisque je suis dans l'opposition et j'anime un groupe résolument dans l'opposition à la présidente. Et s'il y a eu parfois quelques idées intéressantes, quelques volontés d'agir durablement, notamment auprès des collectivités territoriales, il n'en reste pas moins que ce bilan est assez médiocre. La révolution des transports n'a pas eu lieu. On a régressé sur un certain nombre de droits et notamment sur la l'approche de la question relative à l'égalité homme-femme. Les écarts se sont creusés sur le plan économique et sur le plan social également en Île-de-France. Et puis très clairement, cette vision conservatrice de la société n'est pas à l'image de ce qu'est l'Île-de-France et de ce que sont les franciliennes et les franciliens. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui de fraîcheur, on a besoin de renouveau. La candidature d'Audrey Pulvar aujourd'hui me paraît être la bonne candidature, qui n'est pas une candidature contre celle d'autres candidats de la gauche et des écologistes, et très heureux qu'il y ait cette diversité qui s'exprime, et je ne doute pas qu'on se retrouvera. Julien Bayou, Clémentine Autain ne sont pas des adversaires, ce sont des candidatures complémentaires. Notre adversaire aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse, et Audrey Pulvar, moi aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas la soutenir quand je sais qu'elle se positionne pour la gratuité des transports en commun, qui est un vrai sujet, qu'elle veut créer une assemblée citoyenne en Île-de-France, il est temps de redonner la parole aux franciliens, aujourd'hui qu'on en été privé pendant tout le mandat de Madame Pécresse. Et puis aussi, je vous le dis, parce que je suis profondément humaniste et attaché aux valeurs de la République, et je pense que Audrey Pulvar promet ce programme-là. Et c'est un pays de gauche, certes, mais aussi humaniste, écologique, et profondément attaché aux valeurs de la République et à ce qu'est la laïcité aujourd'hui dans les territoires. Donc moi, je me félicite de pouvoir la soutenir, je me félicite de ce qu'elle est, de ce qu'elle incarne. J'ai eu l'occasion de la recevoir à Carrières-sous-Poissy, sur la plaine, justement, maraîchère, pour travailler sur la question de la résilience alimentaire. Et c'est une femme courageuse, c'est pas parce qu'elle est femme qu'elle est courageuse, mais elle porte des vraies valeurs, et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de profils comme celui-là pour régénérer la démocratie en Île-de-France.
Merci Eddy Haït. Je rappelle que vous êtes maire écologiste de Carrières-sous-Poissy, conseiller régional et président du groupe écologiste et progressiste au Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir, merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.